Alors, moi, en effet, vraiment, j'ai envie de vous remercier. Un grand merci de cette intervention. J'ai envie de dire qu'il faudrait vous démultiplier et que vous puissiez être dans chaque inspection académique auprès de nos pilotes, entre autres, parce que je pense qu'il y a un vrai défaut aussi à ce niveau-là. J'avais, moi, en tête que nos politiques éducatives et nos politiques sociales étaient souvent un petit peu déphasées avec le terrain, parce que ces pilotes étaient loin de la réalité, mais j'ai envie de dire, ce CESE, a priori, ou des gens comme vous, leur montrent un peu la réalité, et j'arrive pas à comprendre que ça soit pas entendu. Vous avez beaucoup parlé de la pédagogie freinée, qui est apparemment quand même très porteuse. À l'inspection académique de la Loire, il y a un petit groupe de collègues qui travaillent sur cette pédagogie-là, qui se rencontrent et qui ont entre autres proposé une formation à l'inspection académique, qui n'a pas voulu la faire rentrer dans le cadre officiel, enfin pas si dans le cadre officiel, mais pas dans le cadre des formations sur le temps de travail. C'était en dehors du temps de travail, et grande surprise, pour sûrement un peu dissuader les gens, mais grande surprise, là, ils ont eu un nombre important d'inscrits, hein. Je crois qu'ils ont 46 ou 47 inscrits. D'ailleurs, ils se posent la question de comment ils vont arriver à amener ces formations. Mais ce qui montre que nos collègues enseignants, ils sont pas récalcitrants à toutes ces choses-là, au contraire, et que si on leur donnait les moyens, si on leur donnait l'élan, il y a vraiment des choses possibles à faire. De la même manière, dans l'école où moi j'ai travaillé, on a justement, sur l'idée de coopération, mis en place des classes multi-âge dans une école maternelle, qui a été une expérience intéressante et passionnante pour nous autres enseignants, qui était des fois un petit peu, enfin qui posait question autour de nous, mais simplement, je voulais dire, des collègues remplaçants qui arrivaient dans l'école et qui venaient voir, parce qu'en plus nous c'était un choix, hein, c'est-à-dire qu'on avait mis les enfants de 2 à 6 ans dans chacune des 3 et 4 classes de l'école, suivant les moments. Et donc, mais enfin, c'est se compliquer la tâche, etc. Mais au bout de 2 jours, les collègues mesuraient, enfin, les collègues remplaçants mesuraient l'intérêt comme ça fonctionnait bien. Donc, enfin, ceci pour dire qu'il y a vraiment, enfin, les enseignants, ils sont vraiment prêts à faire plein de choses, quoi. C'est pas les enseignants qui bloquent. La dernière chose que je voulais dire, ça suffit.
Juste vous répondre un peu sur l'essaimage quand même, parce que nous avons animé Jean-Paul Delahaye et moi une journée de formation le 14 octobre, où les recteurs étaient invités à envoyer 5 personnes par académie pour être formé aux préconisations du rapport de Jean-Paul Delahaye et de l'avis du CESE. Donc il y a eu pratiquement 5 personnes par académie, enfin je peux vous donner les noms des personnes par académie qui sont venues, hein, et qui sont censées ensuite revenir vers le recteur et former un petit groupe autour du recteur pour voir comment diffuser cette préconisation et les mettre en place dans chaque académie. Alors après, nous ne ménageons pas notre peine, ni Jean-Paul ni moi, pour aller diffuser. Au début, nous le faisions ensemble, puis on s'est dit, en fait, si on va chacun dans un coin, c'est pas plus mal, parce que ça fait quand même deux endroits différents à chaque fois, quoi. Donc, comme on raconte pas tout à fait la même chose, mais parce qu'il est beaucoup plus exhaustif que moi sur l'état des lieux de la réussite de tous en France, mais quand même, nos préconisations vont dans le même sens. Voilà, moi, c'est vrai que depuis début septembre, je vais dans beaucoup, beaucoup de lieux et je suis prête à le faire encore au moins jusqu'à fin juin, de façon vraiment... voilà, 2-3 fois par semaine, je vais présenter cet avis avec grand plaisir un peu partout. Le CESE me paye mes trajets, donc vous voyez, ça coûte rien à l'éducation nationale, en plus, c'est merveilleux.
Peut-être justement sur la question des parents, si vous avez évoqué quelques exemples sur la place des parents, si vous aviez d'autres exemples éventuellement sur le travail qui est fait avec les familles dans les écoles que vous avez pu visiter ou chez les personnes que vous avez pu auditionner.
Alors, qu'est-ce que je peux vous raconter? C'est-à-dire que les situations sont toujours assez différentes d'une école à l'autre, évidemment, hein, mais... J'ai repris en premier là cet exemple de l'école Pergaud avec le moment d'apprentissage, parce que je pense que c'est la seule école où en fait, avec ce moment d'accueillir les parents dans ce moment d'apprentissage, ça se fait en CE1, CE2. Hein. C'est ces classes-là qui ont choisi parce que c'est des enseignants qui sont d'accord aussi. C'est pas simple, hein, voilà. Mais n'empêche, c'est sans doute la seule école dans toutes celles qu'on a rencontrées où ils pensent qu'ils sont exhaustifs dans la rencontre avec les parents. Donc c'est quand même c'est assez étonnant et eux ils en avaient tissé des liens déjà avant pour rencontrer les parents, c'est-à-dire que le soutien scolaire, les activités périscolaires se passent dans l'école, dans une salle à côté de la salle de classe pour que les parents puissent voir la salle de classe où l'enfant a été la journée si jamais ils ne viennent pas le matin et le soir dans le temps scolaire, au moins ils voient, enfin voilà, de tisser tous ces liens-là. Malgré tout, ils trouvaient qu'ils n'arrivaient encore pas à rencontrer tout le monde et c'est pour ça qu'ils ont mis en place ces moments d'apprentissage avec les parents. J'en discutais l'autre jour avec des enseignants de collège qui me disaient qu'ils l'avaient fait en collège et que ça marchait aussi très très bien. Parce que c'est quand même très très compliqué. On voit bien que avec les parents à la maternelle, avec tous les parents à la maternelle, ça va encore à peu près. Mais au fur et à mesure que on avance dans la scolarité, c'est quand même de plus en plus difficile. Et pour renouer ces liens au collège, le moment d'apprentissage, parce que le moment de restitution n'est pas un moment où tous les parents osent venir. Le moment de restitution d'un travail collectif de la classe n'est pas un moment où les parents les plus éloignés de l'école osent venir. Ils ont toujours une histoire, quelque chose, voilà, qui les empêche de venir, enfin très souvent, voilà.
Là, pour en avoir un peu discuté entre nous, ce qu'on regrette un peu, c'est que les exemples, la plupart des exemples sont quand même dans des écoles, beaucoup moins dans des collèges. Et peut-être, alors c'est une question, est-ce que c'est surtout sur des collèges avec un effectif assez réduit ou vous avez aussi des exemples dans des collèges
avec... j'ai pas donné beaucoup d'exemples dans des collèges, mais il y en a quand même quelques-uns là dans la vie. Franchement, il y en a quelques-uns. Non, c'est des collèges importants. Hein. C'est des collèges à 800, 900 élèves, ceux que je suis allée rencontrer. Oui, oui, c'est pas des petits collèges. Oui, oui, tout à fait. Donc, qu'est-ce que je... Oui, parce que vous retenez du collège dont je vous ai parlé à la fin à Lille. Oui, ça, c'est tout à fait particulier. On est d'accord. Mais le collège Rimbaud à Amiens, c'est un collège où ils sont 800-900 élèves. Hein. Ah oui, oui. J'ai été très frappée en allant dans ce collège de remarquer la propreté du collège quand on arrive. Et le peu de bruit qu'il y a dans les couloirs. Il y a quand même des choses comme ça. Je vous assure, c'est absolument... à 900 élèves, c'est quand même très étonnant, quoi. Hein. Les portes des classes étaient ouvertes, restaient ouvertes pendant l'heure de classe. Voilà, donc on sent qu'il y a un travail de l'équipe éducative ensemble et de l'équipe du collège, parce que voilà, les élèves, quand ils se promènent dans le couloir, d'abord ils vous disent tous bonjour, ce qui est pas désagréable non plus. Et quand je dis ce collège est très propre, c'est qu'en fait, le personnel de nettoyage du collège a fait un certain nombre de formations en commun avec l'équipe éducative. Et du coup, ils sont vraiment sur le... Ils ont le même projet. Ils sont sur le même projet. Et de ce fait, ils n'ont plus de problème de papier par terre. Enfin, ça n'arrive plus, quoi, ces choses-là. Parce que ça s'est réglé. Parce qu'ils ont eu ces moments de formation ensemble, les personnels, les différents personnels. C'est ce que je dis à un moment donné dans une diapo. C'est pas juste le personnel enseignant, mais les personnels de l'école. Voilà. Parce que ça joue aussi dans l'école maternelle et dans l'école élémentaire moins, parce qu'il y a moins de personnel autour. Mais dans l'école maternelle, c'est important. Si tout le monde se sent pris en compte dans ce projet pédagogique pour emmener les enfants plus loin, ça change quand même vraiment les choses.
Alors, une dernière question pour ne pas arriver en retard.
Alors, bonjour. Moi, j'ai une question. Je ne sais pas encore comment, enfin, je sais pas comment vous la poser. Parce que vous parlez de grande pauvreté dans des, vous avez cité des territoires qui sont un peu, on va dire, un peu stigmatisés. Hein, mais comment est-ce qu'on travaille la grande pauvreté avec la grande pauvreté ou qu'on en parle dans des territoires où c'est très tabou de parler de cela, où on est dans un déni presque politique de parler de cela. Est-ce que vous avez auditionné? Comment vous auditionnez?
Dites-moi de quel territoire vous parlez, ça va être plus simple. Moi, j'aime pas les. Ouais. Je ne prends pas trop les chemins de traverse, comme vous avez pu le remarquer.
Non. Moi, je me sens un peu en porte-à-faux parce que c'est des choses qu'on constate dans nos écoles, mais on ne peut pas en parler. Nous, on vient de la Côte d'Azur.
Vous avez raison, je suis allée là-bas aussi.
Voilà, notre circonscription, elle est frontalière de Monaco.
Oui, d'accord.
Donc,
Vous avez le grand écart.
Et on ne peut pas parler de grande pauvreté alors qu'on a des enfants qui ne mangent pas dans nos écoles.
Absolument.
On ne mange pas. Nous, on a des enfants qui ne mangent pas, qui ne peuvent pas manger à la cantine parce que la mairie se refuse de payer des repas parce qu'elle ne comprend pas. Tout le monde est sur la côte. Voilà. Donc c'est la double peine, en fait. On est très pauvre et surtout, il faut qu'on fasse comme si on était riche, quoi. Donc voilà. Beau Soleil est en REP maintenant. C'est tout récent.
C'est en REP.
Oui.
Ah oui, c'est nouveau ça.
C'est tout nouveau.
C'est nouveau, oui.
Donc, ce sont des gens qui travaillent pour des milliardaires le jour et qui rentrent dormir. Ils vivent à 12 et ils font le ménage dans des palaces. Donc, c'est presque schizophrénique, quoi, de parler de grande pauvreté chez nous. Alors, on est pauvre au soleil, mais bon, ce que je disais tout à l'heure à des collègues, ça doit être moins dur peut-être, mais je pense que ça doit être quand même plus dur.
Alors, je dirais deux choses. D'abord, en vous quittant tout à l'heure, là, je dois aller répondre à un journaliste pour justement le fait que les enfants de familles très pauvres n'aient pas le droit de manger à la cantine parce que leurs parents ne travaillent pas. Parce que le Sénat vient de voter ça et que ça me révolte et que ça doit repasser à l'Assemblée. J'espère que l'Assemblée va pas voter ça. Mais c'est quand même totalement révoltant, quoi, que les enfants ne soient pas accueillis à la cantine alors que c'est parfois leur seul repas de la journée, justement. Donc voilà, c'est au passage, hein, je m'excuse, je fais un écart, mais est-ce que j'ose vous dire que vous devez d'être plus inventif que les autres? Ben oui, mais dans ces cas-là, n'hésitez pas à inviter des gens... moi, je connais ATD Quart Monde, mais j'en connais plein d'autres qui peuvent venir vous donner des outils pour savoir comment faire, comment être plus à l'aise avec les parents les plus défavorisés, travailler ensemble ce sujet-là. Et franchement, nous, on est partants pour venir dans des écoles comme ça. Je dis nous, ATD Quart Monde, on est partants pour venir dans des écoles comme ça, travailler. Parce que, oui... Il y a des quartiers où c'est plus facile de parler de grande pauvreté, comme vous dites. Il y a des quartiers où c'est tellement... ça va de soi, quoi. Donc, on en parle assez librement. Mais c'est pas pour autant que tous les parents viennent facilement à l'école. Hein. Ceci dit, ça change quand même pas la donne de ce point de vue. Mais franchement, il faut que vous osiez prendre un temps, d'une part, pour les enseignants, pour... la communauté éducative, je dirais. Un temps pour se former, pour comprendre comment faire avec tous ses parents et pour être, de ce fait, plus à l'aise dans le rapport avec eux, pour être, de ce fait, plus à l'aise dans le rapport avec aussi la mairie. Parce que, voilà, ils sont pas d'accord, mais si vous avez une meilleure connaissance des milieux des enfants que vous avez à l'école, vous allez pouvoir argumenter de façon plus constructive vis-à-vis de la mairie. Vous allez pouvoir argumenter pour dire « Non, mais quand même, regardez là, moi, cet enfant, là, si on fait ça et ça, il va avancer. » Donc, on est... Voilà, je pense qu'on peut avancer. J'y crois toujours, mais je prends beaucoup de portes dans la figure. Hein.